Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch. On est sur Twitch en ce mardi 5 mars 2024. On va faire un tour de l'actualité du jeu vidéo, la déprimante, la moins déprimante. On va aussi parler un petit peu d'annonces de jeux et puis de quelques dates. L'un des grands sujets, bien sûr, aujourd'hui, ce sera l'arrêt de toutes les opérations sur l'émulateur Switch qui se nomme Yuzu. Hein. Ce sera évidemment une discussion assez importante. Nous discuterons des annonces récentes de Nacon. Non, je dirais jamais Nacon, je dirais toujours Nacon. Je suis désolé, c'est comme ça. On parlera aussi un petit peu du Game Pass, et puis on fera comme ça un petit tour du côté de chez Rockstar, du côté de chez 505, peut-être aussi du côté de l'Apple Arcade, chez qui manifestement ça ne va pas top. Surtout pour les gens qui développent les jeux qui rentrent dans le service Apple Arcade. Mais avant toute chose, eh bien on peut quand même dire 2 066 663 €, et ça c'est le montant levé par Speedon, l'événement caritatif de Speedrun, événement français, donc au profit de Médecins du Monde, en l'espace de 4 jours, hein, c'était durant ce week-end, le week-end dernier, de jeudi à dimanche, un événement donc effectivement de très très haute volée, un nouveau record pour cette quatrième édition, et puis bah, un excellent week-end, alors je vois que sur le chat il y a des gens qui y étaient, donc ça devait être l'excellent week-end, et puis bon, moi effectivement à distance je commence à rattraper ce que je n'ai pas pu voir, je me suis accroché un petit peu au temps fort de l'événement. Toutes les VOD sont disponibles, il y a des choses absolument hallucinantes à voir, et puis ça fait toujours plaisir, je l'ai déjà dit et je le redirai, d'avoir cet événement qui ne se contente pas des minimums, qui évolue sur un certain nombre de points chaque année. Il y a encore bien sûr beaucoup de travail, même si on atteint quand même déjà des sommets en termes, je trouve, d'organisation, de fluidité pour les viewers, hein, la vitesse à laquelle s'enchaînaient les runs, la fluidité des passages aussi vers les ambianceurs, de manière générale du temps aussi qui avait été alloué à Médecins du Monde pour expliquer leurs activités, mais aussi livrer les messages qu'ils avaient besoin de livrer. Et puis bah voilà, hein, si on le sait toujours, un effort qui est fait sur plus d'inclusion, plus d'inclusivité, plus de représentation au sein de l'événement, des efforts chaque année, un chemin qui reste encore à parcourir, qui est long, on le sait, mais c'est bien de voir que voilà, c'est pas juste des lauriers d'un premier épisode il y a 4 ans qui sont restés les mêmes. Ça évolue, et ça évolue avec deux courbes qui se suivent, celle des dons et celle des évolutions de l'événement, ce qui est super cool. Voilà, très, très heureux d'avoir un événement pareil en France autour du speedrun. Le seul moment, l'un des seuls moments de l'année où je m'intéresse effectivement à la scène speedrun, mais c'était très très stylé. Voilà. Il a dit très très stylé. Rappel des titres de ce qu'on s'est dit vendredi en live dans l'hebdo d'Origami, et puis bah, vous l'avez peut-être rattrapé vous en podcast ou sur YouTube. On a parlé des annonces de Pokémon, et notamment Pokémon, légende Pokémon ZA. On a parlé de Toys for Bob, figurez-vous, hein, ce studio anciennement Activision qui avait travaillé sur Crash Bandicoot 4 ainsi que sur la trilogie Spyro Reignited, et qui finalement, après une lourde passe de licenciement ordonnée par Microsoft Activision, a réussi à négocier son indépendance. Donc Toys for Bob ne va pas fermer, Toys for Bob va devenir une entité à part, indépendante, ils l'ont annoncé, et ils vont essayer de travailler maintenant, et bien justement encore avec Activision et avec Xbox, sur leur prochain jeu. Peut-être que ce sera sur une des licences que je viens de citer. À mon avis, on peut se l'accrocher pour un retour de Skylanders, hein. Mais voilà, en tout cas, c'est bien de savoir que le studio survit. Et puis l'un des autres sujets prépondérants de l'hebdo d'Origami, en à côté bien sûr de ce qu'on avait déjà couvert autour des licenciements chez Sony, chez PlayStation, pardon, qui ont été accompagnés par de lourds licenciements également chez Electronic Arts, eh bien c'était ce qu'il se passe autour d'Embracer actuellement. Vous le savez, la restructuration d'Embracer, c'est la recherche de liquidités rapides, ces liquidités que Lars Wingefors et son groupe n'ont pas réussi à toper du côté de l'Arabie Saoudite, et ça passerait par se débarrasser de certaines de ces branches, des branches de ce grand arbre, qui serait a priori déjà Saber Interactive. Alors Saber Interactive, on est quand même sur une grosse machine, hein, on est sur plus de 4000 employés, et l'entreprise aurait trouvé des investisseurs privés pour se racheter elle-même à Embracer, donc 4000 employés, 32 studios de développement, hein, vous avez là-dedans Foray Games, vous avez Tripwire, Zen Studio qui font les jeux de Flipper, vous avez 3D Realms aussi, hein, le label 3D Realms, il est à l'intérieur de Saber, New World Interactive, Aspyre, Beamdog, et du coup là-dedans aussi le projet Star Wars Knights of the Old Republic Remake, qui serait, à défaut d'aller bien, hein, vous le savez, le jeu a eu de très très grandes difficultés, qui ne serait pas complètement mort. Et la question, bien sûr, sera de savoir si il peut continuer un jour. Mais en tout cas, Saber est en train d'essayer de trouver des solutions pour se racheter à Embracer pour 500 millions de dollars. C'est quand même une belle entité, Saber, c'est son propre éditeur également. Et ce serait également le cas de Gearbox. Et ça, c'est une rumeur qui nous vient de chez Kotaku, et c'est le journaliste Ethan Gack qui en parle. A priori, Gearbox, bon, ça c'est dans les rumeurs depuis un certain temps, serait en passe en tout cas soit de changer de main avec un autre acquéreur, soit de se racheter également, donc un groupe de 1500 personnes, 7 studios internes. Et tout ça, bah, ce serait effectivement une excellente nouvelle pour tout le monde, on l'imagine, aussi bien pour ses studios et ses éditeurs et ses labels qui pourraient s'éloigner le plus loin possible de cette restructuration qui n'en finit pas, hein, même si Embracer promet que à la fin de l'exercice fiscal, ça va se calmer. Et puis de l'autre côté, si Embracer récupère effectivement à la fois ses montants des transactions et en plus a moins de gens à payer, eh bien peut-être qu'ils arrêteront de passer toquer à la porte de tous les studios qu'il leur reste pour continuer à réduire les masses salariales. Moi, je voulais revenir sur une annonce récente d'un studio que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Moon Studio. On les connaît pour la série des Ori. On sait aujourd'hui qu'ils sont sur un tout autre jeu qui s'appelle No Rest for the Wicked, qui est à la fois très très beau, hein, si vous l'avez découvert l'an dernier lors de sa présentation, mais aussi à sortir cette année en accès anticipé, le 18 avril. On peut se regarder un petit peu de gameplay qui avait été dévoilé chez IGN il y a quelques semaines, histoire de se remettre un peu dans le bain. Alors, ce qui va être intéressant avec No Rest for the Wicked, c'est que comme vous pouvez le voir au niveau de l'univers, ça a un petit peu changé par rapport à Ori, même si on retrouve des techniques visuelles assez proches pour un Souls-like présenté en vue du dessus, dans une espèce de successeur de ce qui fut la vue isométrique dont parlait Super Vieux Jeu il y a encore pas très très longtemps. À la BO, on devrait changer un petit peu d'ambiance également, puisque Gareth Cocker laissera sa place pour ce jeu-là à Jason Graves. Alors Jason Graves, c'est pas n'importe qui. Bon, c'est juste Dead Space, hein, pour ne citer que ça, mais Jason Graves, c'est aussi la BO, par exemple, de Until Dawn. Enfin bref, c'est un cador, hein, en l'occurrence. Et donc, le jeu se présentera à nous, je le disais, le 18 avril, et ce, en accès anticipé. D'ailleurs, on va y revenir, hein, durant cette émission. L'accès anticipé, peut-être aussi par un effet Baldur's Gate 3, semble à nouveau un petit peu, on va dire, en odeur de sainteté pour des projets de plus grande ampleur ou des projets qui ne sont pas articulés sur une mécanique de roguelike ou ce genre de choses. On en reparlera quand on parlera de Nacon un petit peu plus tard. Donc voilà pour No Rest for the Wicked, très très hâte de découvrir ça. S'il devait y avoir un moment un événement preview, soyez sûr qu'on se battrait à main nue à la rédaction pour s'y rendre, en tout cas pour être la personne qui s'y rendra. On continue avec un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Genre, on fait encore les rumeurs de jeux vidéo ici, mais on est où, quoi ? On a parlé, l'hebdo d'Origami de vendredi, de Respawn Entertainment, puisque Activision, Electronic Arts, est actuellement en train de licencier. Le lapsus est intéressant, est actuellement en train de licencier et de se recentrer sur ses propres licences. Alors là, c'est un petit peu ce qui nous est expliqué de manière schématique. En gros, voilà, oui, c'est vrai qu'on travaille avec Disney dans tous les sens, mais peut-être qu'on se rend compte que tout ça, ça coûte un peu trop cher et qu'on n'arrive pas à rentrer vraiment dans nos frais. Bref, Electronic Arts licencie et on comprend que des projets Star Wars seraient annulés. Ça vaut déjà, a priori, de manière très très claire, pour le FPS Star Wars qui était en développement chez Respawn, dont on comprend, à force de sources diverses, qu'il s'agissait d'un FPS Le Mandalorian. Est-ce que ça vaudra aussi pour un projet qui, moi, me tenait très à cœur, qui est, pour rappel, un tactical par des anciens de XCOM et donc de Firaxis qui se sont montés dans un nouveau studio qui s'appelle Bitreactor et qui travaillait avec Respawn sur un XCOM Star Wars. Est-ce que ça s'est annulé? Ça, je ne saurais pas vous le dire. En tout cas, comme je le disais dans l'hebdo, a priori, voilà, des bruits de couloir que moi, on m'avait confié. Il serait plutôt, en tout cas, question de se recentrer autour de la figure du Jedi pour tout ce qui touche à Star Wars. Et en gros, de se dire que les projets qui ne mettent pas en avant des fanatiques religieux et des sabres laser sont moins porteurs, tout simplement. Ce n'est pas une confirmation que Star Wars Jedi, la suite de Survivors, existe, hein, mais c'est juste qu'a priori, ce serait le mantra actuellement chez Electronic Arts. Le Jedi, c'est porteur, les trucs en à côté, moins manifestement dans les ventes. Et pour l'instant, tous les projets Marvel, donc ça concerne un jeu Iron Man ainsi qu'un jeu Black Panther, si je dis pas de bêtises, chez Electronic Arts, hein, parce qu'il y en a d'autres ailleurs, eh bien ces jeux-là seraient pour l'instant protégés et pas concernés par ces récentes fuites qui donc parlent de la restructuration un peu de la production au sein de chez Electronic Arts. Tout ça nous amène à une rumeur, et cette rumeur, elle concerne Respawn, mais pas Star Wars. Récemment, donc, plusieurs sources ont parlé de l'existence d'un nouveau projet dans l'univers de Titanfall chez Respawn Entertainment, donc qui serait porté par Steve Fukuda, dont on avait déjà entendu parler effectivement pour son projet actuellement en travail chez Respawn, et Jason Grubb, c'est le croisement impie entre Jason Schreier et Jeff Grubb, vous n'avez pas envie de le rencontrer. Jeff Grubb s'est vite précipité autour de cette annonce pour expliquer que non, ne croyez pas à un Titanfall 3, ce n'est pas de quoi il serait question. Bon, j'imagine que pour Respawn et pour Electronic Arts en 2024, il est assez clair que la marque Titanfall a désormais beaucoup moins de poids que la marque Apex, donc peut-être qu'il s'agirait plutôt, en tout cas moi, c'est ce que je ferais, comme dirait l'autre. Voilà, si je devais faire un FPS, même s'il devait incorporer des titans, je l'appellerais plutôt Apex, en vérité. Merci beaucoup à la modération sur le chat qui m'envoie un tweet de Bitreactor, donc le studio d'anciens, enfin monté en partie par des anciens de Firaxis, qui confirme que leur jeu, donc tactique, stratégie par des anciens d'XCOM dans l'univers de Star Wars, est toujours en développement au sein de Respawn. Enfin, au sein de Bitreactor avec Respawn. Encore une petite bande-annonce, hein. Cette fois-ci je vous mets du jeu vidéo avant les mauvaises nouvelles. J'ai remarqué que ça pouvait parfois vous préparer un petit peu au choc qui arrive ensuite. On va parler de Nacon, on va parler de jeux français, on va parler d'action RPG, on va parler de la licence Gridfall et de Gridfall 2 qui s'est présenté il y a quelques jours au moyen d'un teaser et qui arrivera lui aussi justement en accès anticipé. Désolé pour les gens qui nous écoutent en podcast, on va regarder la bande-annonce. Pourquoi? Parce que la musique défonce. Gridfall 2 The Dying World. Alors, on n'a pour l'instant pas la confirmation qu'il s'agit d'Olivier de Rivière à la BO, mais si c'est pas lui, c'est quand même bien imité. Gridfall 2, donc toujours par le studio parisien Spiders, qui est possédé désormais par Nacon. Alors, pour rappel, hein, plusieurs expériences de de jeu en accès anticipé du côté de chez Nacon, mais quelque chose d'assez nouveau finalement pour le studio Spiders, qui va vous proposer une distribution en bêta payante, en accès anticipé, avec un premier chapitre jouable à l'arrivée en accès anticipé, et puis ensuite le reste plus tard, peut-être distribué au fur et à mesure, peut-être tout à la sortie du jeu. Ça, ce sera encore à vérifier. Clairement, vous voyez du action RPG ou du RPG qui décide de vous faire une Larian, finalement, difficile de ne pas voir une mode, un retour en grâce de ce mode de distribution auquel Larian était habitué bien avant Baldur's Gate 3, pour le coup, hein, il l'avait déjà fait avec les Divinity. Donc le jeu s'appelle Gridfall 2 The Dying World, il repose sur le même univers entre fantastique et colonisation du XVIIe siècle, et il partira donc sur une inversion des points de vue par rapport au premier jeu. Cette fois-ci, on n'incarnera pas justement un colon sur l'île de Tirfradi, mais une native de Tirfradi qui sera amenée contre son gré et réduite en esclavage sur le vieux continent de Gakan ou Gaykane, je ne sais plus comment il l'appelait exactement. Et donc, l'accès anticipé du jeu débutera cet été, et justement, Naconnect, je refuse de dire Naconconnect, le Naconnect, ça va. Et Total Warhammer aussi, merde maintenant. Il confirme le premier épisode a fini par atteindre les 2 millions de copies vendues. Donc voilà pour Gridfall 2, un jeu effectivement le premier auquel j'avais quelques reproches à faire, malgré à mon sens une montée en gamme pour le studio Spiders, notamment effectivement la manière dont le scénario se sacrifie complètement sur la fin du jeu. Mais voilà, on va suivre ça et puis on va continuer à parler, vous allez voir, de Nacon, et on ne parlera pas que des choses rassurantes. Terminator Survivors, c'est également un autre jeu Nacon en accès anticipé qui arrivera sur Steam le 24 octobre. Donc là, on est sur quelque chose d'assez différent. Terminator Survivors, c'est développé par un studio italien qui s'appelle Nacon Milan. Il ne s'agit pas d'un Vampire Survivors-like, mais c'est un jeu d'action survie en monde ouvert dans un futur post-apocalyptique qui, en gros, vous place dans le futur, mais en fait, ça se passe entre les événements de Terminator 1 et Terminator 2. Alors, je pense que c'est entre les événements de Terminator 1 et les événements de l'intro de Terminator 2. J'ai l'impression que c'est plutôt de ça dont il est question. Ça se passera après le jugement dernier. Et donc on va looter, on va crafter, on va siphonner du gasoil, et puis accessoirement déglinguer des cyborgs à l'occasion quand même, en solo bien sûr, mais aussi en multijoueur, avec une bande-annonce que je vous laisse regarder de votre côté, parce que d'un point de vue musical, je ne sais pas trop si je prendrais des risques à vous la diffuser, mais une bande-annonce qui, je trouve, a bien du mal à convoquer l'esprit et le fanservice de la licence, puisqu'on y voit grosso modo des gens piquer de l'essence avec une esthétique à la PUBG, et à la fin, il y a un robot. Comme je le disais, c'est développé par Nacon Milan, et ce sera votre petit morceau de Terminator pour fêter cette année les 40 ans de la franchise, car oui, et voilà le limbago, on le sent, Terminator 1 c'est 1984, Terminator ça a 40 ans, voilà. Et donc, Test Drive Unlimited Solar Crown également, qui, évidemment, qui dit événement Nacon, dit des nouvelles de KT Racing, qui s'appelait anciennement Kiloton. Et donc, cette fois, c'est la bonne, le jeu sortira cette année. Le jeu veut insister sur son statut de Massively Open Online Racing Game, ce qui en fait un mourgue, avec donc une nouvelle bande-annonce qui a été dévoilée, mais toujours pas de date plus précise pour le moment. Et forcément, quand on fait cette news avec des vrais morceaux de Spiders et des vrais morceaux de KT Racing, anciennement Kiloton, dedans, ça m'oblige quand même un petit peu à rappeler que récemment, en tout cas l'été dernier, les deux entreprises, toutes deux des filiales de Nacon, ont fait l'objet de plusieurs sonnettes d'alarme tirées par notamment des représentants du syndicat des travailleuses et des travailleurs du jeu vidéo. Donc des négociations pour la revalorisation des salaires qui tournent court ou qui capotent, un dialogue social qui serait a priori empêché à chaque occasion, plusieurs accusations de manœuvres considérées comme illégales vis-à-vis du droit du travail français. Les filiales de Nacon essaient de se soutenir, en tout cas les syndiqués au sein de ces différentes antennes essaient de se soutenir les uns les autres, Et ce serait en gros une histoire de claquettes. Les différentes filiales en fait font des claquettes à base de c'est pas nous, c'est Nakon qui décide, et Nakon fait des claquettes à base de bah c'est voyez plutôt avec vos managers. Et donc a priori une très grande difficulté à répondre au malaise de certains employés. Vous me connaissez, j'avais pas juste vous montrer les bandes annonces sans vous parler effectivement d'un truc assez récurrent. Il est très difficile de parler du malaise dans les studios de jeux vidéo français sans parler du cas Nakon en 2024. Alors ça, c'est un événement en soi, puisqu'on parle là d'un type de stream, d'une rubrique de l'offre publique de Xbox qui serait vouée à revenir. Un deuxième épisode, alors que pourtant Xbox est plutôt habitué à inventer des choses sans forcément les faire revenir. Donc, la première édition du Partner Preview, hein, ça avait eu lieu en octobre. Et en fait, c'était de faire un petit peu le point sur les futures sorties de jeux, mais pas forcément des exclusivités à l'écosystème Xbox, mais en fait, voilà, des jeux sur lesquels Microsoft avait envie de pousser un peu la com. En gros, il faut s'imaginer un Partner Showcase Nintendo, en vraiment très gros, hein, parce que très souvent, voilà, c'est quand même des jeux qui sortent aussi au minimum sur PC et sur PS5. On aura ainsi rendez-vous demain, le 6 mars, pour 30 minutes et une douzaine de jeux à découvrir, dont évidemment Silksong, non. Stop. Dont évidemment Kunitsugami. Alors Kunitsugami, Path of the Goddess, hein, c'est un jeu qui a été dévoilé par Capcom l'an dernier, pendant le Xbox Game Showcase de juin. Donc avec une sorte de Japon médiéval fantastique, un bestiaire de monstres assez cool et une boucle de gameplay qu'il faut encore définir. Donc Capcom sera là hein, demain pour cet événement. On aura également Tales of Kenzera, Tales of Kenzera, c'est le premier jeu d'un studio qui a été fondé par Aboubakar Salim, qui est le comédien que vous avez découvert dans Assassin's Creed Origins, puisque c'est lui qui prête ses traits et sa voix à Bayek. Et on aura également un troisième jeu qui lui nous vient de chez Nexon, ça c'est les trois jeux qui sont confirmés sur la douzaine de jeux à voir, The First Berserker, lui aussi dévoilé en fin d'année dernière, donc un action RPG avec une esthétique assez particulière. Donc, Kunitsu, Kenzera, Kazan, c'est manifestement l'année du cas, mais ce ne sont, comme je le disais, que trois des quelques jeux qu'on découvrira demain, mercredi 6, à 19h, heure française. Malheureusement, je peux déjà vous dire qu'à titre personnel, je ne serai pas là pour découvrir cet événement-là avec vous. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre de la rédaction sera motivé, mais moi, ça va pas pouvoir se faire. En revanche, on en parlera bien sûr naturellement dans l'hebdo de vendredi. On rentre là, je préfère être extrêmement honnête avec vous, sur un territoire que je maîtrise trop peu. Il y a bien finalement que l'e-sport, que je comprends encore moins que le monde de l'émulation, j'y ai jamais trempé suffisamment, donc je vais m'efforcer d'être le plus factuel possible, de vous citer des travaux intéressants sur le sujet, et de ne pas m'enfermer dans des propos que je pourrais regretter. D'avance, désolé pour les éventuelles erreurs factuelles, après les avis sont des avis, mais bon, les erreurs factuelles, je préfère ne pas en faire. On va donc parler de Yuzu, ou plutôt de feu Yuzu, puisque l'émulateur, vraiment l'émulateur star de la Nintendo Switch, est passé en une semaine de, ouvrez les guillemets, Nintendo nous traîne en justice, mais on est confiant, fermez les guillemets, à, ouvrez les guillemets, on vient de conclure un accord à l'amiable avec Nintendo, on leur doit 2,4 millions de dollars, et Yuzu s'est terminé, fermez les guillemets. Au passage, Yuzu a d'ailleurs été tenu de publier un message dans lequel ils reconnaissent, et là, je les cite, « Nous comprenons aujourd'hui que puisque notre projet peut contourner les protections mises en place par Nintendo et permettre aux joueurs de jouer à des jeux hors des matériels autorisés, il a conduit à du piratage de masse. » On parle là d'un accord à l'amiable, c'est-à-dire que l'affaire ne va pas devant les tribunaux, on s'entend sur un certain nombre de principes qui doivent être respectés de chaque côté, et donc la justice n'en entendra pas parler. Yuzu s'est développé par une société qui s'appelle Tropic Haze, c'est un émulateur de système Switch, qui tourne à la fois sur PC et sur téléphone Android. Donc Tropic Haze, c'est aussi le développeur de Citra. Citra, c'est un autre émulateur qui est lui consacré à un système beaucoup moins vivant, la 3DS. Et Dieu sait que émuler de la 3DS, c'est l'enfer. Hein. Et Dieu sait que Citra, c'était vraiment une bénédiction pour la préservation du jeu vidéo. Et si je dis c'était, c'est parce que l'accord auquel Nintendo a contraint Tropic Haze, il comprend également l'arrêt de la distribution et de tous les travaux autour de Citra. Et ça, c'est probablement le truc le plus amer de toute cette histoire. Alors pour comprendre Tropic Haze et pour comprendre comment Tropic Haze s'est retrouvé dans cette situation, faut déjà qu'on comprenne comment les autres fabricants d'émulateurs ne se retrouvent pas dans cette situation. Alors c'est parti pour l'exercice de funambulisme que les spécialistes ou en tout cas les amateurs d'émulation connaissent très bien. L'émulation de base, c'est certes un aimant à pirate, mais ce n'est pas du piratage tant qu'on respecte quelques règles simples qui nous gardent dans la légalité et qui en font un hobby, qui en font une activité à part. Donc un émulateur, en fait, ce n'est rien sans le cœur de ce qui fait une machine de jeu, à savoir son BIOS. C'est un ensemble de données, hein, vous avez peut-être déjà entendu parler du terme. Et donc, les équipes qui fabriquent ces émulateurs, si elles ne veulent pas de problème, elles ne distribuent pas ce BIOS. Déjà, parce que voilà, un émulateur qui veut vivre longtemps, il se garde bien de faire la promotion du piratage. Et puis, bah, si tu veux distribuer un BIOS, il faut bien que tu aies piraté un BIOS déjà. Donc, ça te met dans une boucle assez compliquée. Donc, comme je le disais, si tu veux vivre longtemps, tu ne fais pas la promotion du piratage et tu te présentes comme une manière alternative de jouer aux copies de jeux que tu possèdes sur d'autres systèmes. C'est ça l'émulation à la base. Accessoirement, ce qui permettrait jusqu'ici à un émulateur comme Citra par exemple d'être assez perché et loin du gros œil de Nintendo, c'est le fait d'émuler un système dit « mort ». C'est-à-dire, voilà, une machine qu'on ne trouve plus dans le commerce. De là, il reste effectivement la question de la propriété intellectuelle de Nintendo sur les jeux 3DS, et de ce côté-là, ben voilà, Nintendo, on les a vus faire, ils vont surtout donner la chasse ailleurs, ils vont donner la chasse après les sites et les hébergeurs qui laissent faire de la distribution en masse de ROM de jeux, donc voilà, hein, vraiment les fichiers de données qui permettent d'exécuter les jeux, et ainsi, bien sûr, que les BIOS de ces machines, le fameux BIOS qu'il ne faut absolument pas distribuer. Mais grosso modo, si la console est morte et que tu restes tranquille, tu risques pas trop qu'on vienne te chercher des noises en tant que créateur d'émulateur. Même s'il est admis, voilà, pour la 3DS, hein, qu'une majorité de tes usagers ne possèdent pas les jeux qu'ils exécutent. Je dis pas que c'est le cas, je dis même si c'était admis, grosso modo, voilà, si tu travailles sur une machine morte, t'es quand même un petit peu plus à l'aise. Yuzu, en revanche, c'est l'émulateur star de la Nintendo Switch. C'est une console qui est en cours d'exploitation. Et pour une partie de la communauté émulation, émuler une machine en plein durant son cycle de commercialisation, qui plus est, en plus, la machine la plus accessible à un maximum de personnes, c'est-à-dire la machine la moins chère du marché, et la plus à même d'être trouvable d'occasion à des prix bas, eh bien c'est au minimum moralement discutable, mais aussi extrêmement risqué, voire un peu con, soit un peu détroit. Donc ça, c'est un petit peu la base de ce que fait Yuzu et que ne font Yuzu et d'autres émulateurs Switch, hein, parce qu'il n'était pas le seul sur son domaine, mais qui, voilà, creuse déjà la différence avec Citra, par exemple, et avec un certain nombre d'autres émulateurs. Et puis ensuite, il y a le fait que Tropic Haze, c'est pas tout à fait un groupe qui était très discret, ni une organisation à but non lucratif, hein, d'ailleurs. Hein, ils avaient un Patreon, derrière lequel, en fait, ils distribuaient en avance les prochaines mises à jour du logiciel. Officiellement, un Patreon de soutien dans leur travail d'amélioration de l'émulation, qui est un exercice en soi à mettre de côté par rapport au piratage. Mais puisque le boulot d'un émulateur, c'est aussi de s'améliorer dans l'exécution de chaque jeu, ça veut dire que pendant un temps, Tropic Haze, eh bien, il distribuait probablement en avance, derrière la porte du Patreon, une mise à jour qui permettait de mieux faire tourner Metroid Dread, de mieux faire tourner Tears of the Kingdom. Et donc, quelque part, on pourrait arguer du fait qu'il monétisait une meilleure émulation de ces jeux qui sont tout à fait dans l'actualité de Nintendo. Ce qui revient à se braquer un immense projecteur dessus et d'attendre les problèmes, quoi. Et le truc, c'est que Yuzu, en plus de ça, ne s'arrêtait pas là. Il parlait trop. Il bombait le torse, hein. Par exemple, voilà, le 13 mai 2023, le lendemain de la sortie de Tears of the Kingdom, eux tweetaient que le jeu était parfaitement jouable chez eux en 4K. Il y a plein de manières de gérer ta communication, mais il y a aussi celle qui consiste effectivement à rester sous le faisceau du projecteur que t'as braqué sur toi et ensuite de secouer les bras en disant là, je suis là, là, juste sous le projecteur, c'est moi, regardez-moi. Donc là, effectivement, forcément, voilà, si on voulait vulgariser, comme le dit très bien une chaîne que je vous recommande pour ces sujets-là, à savoir Modern Vintage Gamer, hein, qui fait autorité dans le domaine, Nintendo les accuse quelque part aussi d'avoir soufflé sur les braises du piratage. Et je trouve que c'est une très très bonne formulation et je voulais absolument le créditer. Sa dernière vidéo sur le sujet, elle dure 9-10 minutes et elle vous donnera déjà pas mal de clés par rapport à tout ça pour comprendre le truc de manière assez, assez large. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, et en fait depuis le début du cycle de vie de la Switch, Nintendo, ils sont sur les dents. Tous les gros jeux first party sont piratés une semaine, voire un mois avant la sortie. Donc hein, y a une boîte qui sort des cartons quelque part dans un entrepôt. Le jeu est dumpé, c'est-à-dire qu'on en extrait les données. Et puis ensuite, la ROM est mise à disposition sur Internet. Sur Internet. Internet. C'est, il me semble, l'Internet russe. Et donc, à partir de là, eh bien, Nintendo fait la chasse non seulement au piratage de son jeu en avance, parce qu'ils estiment qu'il y a un manque à gagner par rapport aux ventes du jeu, mais aussi aux spoilers. Hein. Ça, c'est un truc qu'on a vu beaucoup mentionné par Nintendo, la manière dont ils disent souffrir du fait que le scénario parfois intégral de leur jeu eh bien, sort sur les réseaux sociaux, sort sur Reddit, sort sur un certain nombre de plateformes, comme je le disais, une à plusieurs semaines avant la sortie du jeu. Ce n'est pas de la faute de Yuzu, ce n'est pas de la faute des émulateurs de Switch, mais c'est fait en utilisant notamment Yuzu. Ça, Tropic Haze, ils le savent, et Tropic Haze, je pense, avait peut-être des manières d'éviter ce genre de choses, d'éviter en tout cas des manières de tenir le collimateur de Nintendo à portée. J'imagine par exemple que, je ne sais pas si ça se fait, là je lance un truc en l'air qui paraîtra peut-être idiot aux gens qui sont habitués au monde de l'émulation, mais est-ce qu'il est possible, est-ce que certains le font, est-ce que certains producteurs actuellement d'émulateurs empêchent l'émulateur qu'il distribue d'exécuter un jeu avant sa date de sortie ou d'exécuter un jeu avant une certaine période de manière à ne pas avoir la charge d'avoir participé à la diffusion du jeu illégal avant sa sortie. Je ne sais pas si c'est des choses qui se font, je ne sais pas si c'est des choses que Yuzu aurait pu décider de faire pour ne pas se retrouver dans cette situation. Je ne sais absolument pas ce que je raconte encore une fois, donc je vais revenir sur la partie écrite de cette news. Le truc c'est que voilà, ça aurait été une manière comme une autre de ne pas se mettre, de ne pas s'exposer, mais Yuzu, c'est une autre philosophie, et c'est plutôt une philosophie de fier à bras, quoi. Donc, il y a encore une semaine, le communiqué de Tropic Haze, le développeur du logiciel, il semblait assez confiant sur la capacité de l'entreprise à se défendre face à Nintendo, et voilà, on ne sait pas exactement ce qui a changé dans le rapport de force en une semaine. Soit le dossier de Nintendo s'est alourdi, soit un Yuzu a refait avec son accompagnement d'avocat l'inventaire de ses forces et ils se sont peut-être rendus compte qu'à l'évidence ils n'avaient pas la capacité, notamment financière, de tenir la distance face aux finances d'un géant comme Nintendo hein, qui pourra faire traîner en appel, etc., etc. Soit, et c'est une des théories qui revient pas mal depuis hier, soit ils se sont rendus compte que aller au tribunal, c'était risquer, non seulement bien sûr de perdre, mais aussi de permettre à Nintendo de créer un certain nombre de précédents légaux qui seraient dangereux. Non pas juste pour eux, non pas juste pour l'émulation Switch, mais pour peut-être tout le milieu de l'émulation. Celui qui effectivement joue avec le feu, celui qui vole trop près du soleil, avec des consoles qui sont actuellement en distribution, mais aussi tout ce monde de l'émulation généralement, on cherche à protéger celui qui aide à la préservation du jeu vidéo, celui qui empêche les jeux de disparaître. Et Dieu sait que Nintendo est l'un des spécialistes, effectivement, de la disparition des jeux après un certain temps, avec, on l'a vu, hein, avec les boutiques 3D, la boutique 3DS, la boutique Wii U, c'est le cas aussi avec Sony. Enfin voilà, c'est des sujets qu'on a déjà touchés du doigt et on sait à quel point, à ce moment-là, l'émulation, le monde de l'émulation est une réponse, est une solution. La question ensuite de avec quoi vous émulez, avec quel matériel vous jouez à ces jeux, c'est pas de ça dont on est en train de parler. Mais voilà, il reste effectivement cette théorie, Yuzu se rendant compte que non seulement il pourrait être l'idiot de service, celui qui s'est fait choper vraiment en étant un peu trop provocant, mais en plus de ça, être resté dans les mémoires comme ceux qui non seulement ont perdu contre Nintendo, mais ceux qui ont compliqué les choses pour les prochaines personnes qui seront opposées d'une manière ou d'une autre à Nintendo ou à d'autres entreprises du genre. Et voilà, d'ailleurs, il faut comprendre un truc, si on creuse un petit peu sur la proposition de jugement qui a été formulée par Nintendo, on voit que le dossier de Nintendo, il aimerait beaucoup élargir les paramètres légaux de la question de l'émulation à terme. Par exemple, une bonne partie de leur dossier, ils semblent moins parler d'émulation que de leur gros problème à eux, qui est le leak des jeux en avance, le million prétendu de Zelda Tears of the Kingdom qui ont été téléchargés et exécutés avant la sortie du jeu, et pour ce qui était un sujet qui est adjacent à celui de l'émulation, et que eux ont l'air de vouloir faire peser sur les fabricants d'émulateurs. Et qui sera l'entreprise qui par ses agissements et par son côté je me tape sur le torse, amènera Nintendo à réussir ce genre de manœuvre et à créer ce genre de précédent, ce serait de bien tristes mémoires pour une entreprise, quoi. Et voilà, attention, moi, comme je dis que Nintendo aimerait bien se farcir les fabricants d'émulateurs, je parle bien des fabricants d'émulateurs tiers, parce que eux aussi, ils en font de l'argent avec l'émulation, dans un tout autre cadre, bien sûr. Mais comme le rappelle très justement Modern Vintage Gamer dans sa vidéo, c'est une entreprise qui fait actuellement du blé grâce à l'émulation via le Switch Online, non seulement l'émulation de leur machine, mais aussi celle des autres. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur de l'émulation légale, qui cherchent aussi à aider ces entreprises à émuler leur propre contenu et essayer de les amener vers ces principes de rétrocompatibilité, etc. Donc, il y a toujours un petit peu la question de « Ok, on dit qu'on veut se faire les émulateurs, on dit qu'on veut se faire l'émulation, on dit que l'émulation, ça tue la créativité, mais il y a une partie de ces gens-là qui ne travaillent absolument pas à créer des softs comme Yuzu qui sont, il faut le dire, oui, des aimants à piratage, mais qui travaillent sur d'autres domaines. L'émulation, c'est pas juste ça. » Voilà, j'espère que c'était informatif pour les gens qui avaient besoin du cadre de base. Et puis sinon, je vous dirige vers un excellent article de Ars Technica sur le sujet, un autre du site Aftermath, aftermath.site, et puis cette vidéo de Modern Vintage Gamer, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, et on pourra les retrouver aussi sur Discord. Vous avez peut-être suivi la prochaine news si, comme la moitié des Françaises et des Français, vous avez décidé de vous mettre à balatro après avoir vu Erwan Cario en parler dans l'hebdo d'Origami de ce week-end. Playstack, l'éditeur du jeu, a pris la parole vendredi, pendant qu'on était en train de parler du jeu, pour déplorer le retrait de la vente de balatro d'un certain nombre de boutiques en ligne, PC ou console, dans un certain nombre de pays, au motif que le jeu serait soudain devenu interdit aux moins de 18 ans. Alors, le truc, le point d'accroche de tout ça, c'est un contenu considéré comme faisant la promotion des jeux d'argent et contenant des instructions à même d'inviter les gens à jouer de l'argent. Il y a un petit souci de jugement, il y a un petit souci d'analyse du contenu du jeu. Le problème, c'est qu'il s'agit, pour rappel, d'un roguelike solo qui n'a rien à voir avec les jeux d'argent, sinon une imagerie en fait. Parce que voilà, dans son univers, c'est un univers à base de cartes à jouer, de figures de poker, de tirages de tarot. En fait, c'est qu'une imagerie que le jeu utilise pour mieux tordre et faire tout autre chose. Donc pas d'argent réel là-dedans, pas de mécanique prédatrice, juste une imagerie de casino. C'est même le genre de jeu qui va aller jusqu'à proposer une option dans les paramètres pour tout débloquer, plutôt que de forcer les joueurs à jouer trop longtemps s'ils n'ont pas suffisamment de temps pour grinder toutes les parties qu'il y a à faire pour jouer. Donc vraiment, le truc est limite anti-mécanique pernicieuse, quoi. Malheureusement, il y a un organisme de certification qu'on comprend être notre norme européenne PEGI qui lui a assigné un très arbitraire PEGI 18 tout récemment, ce qui a fait boule de neige donc auprès de certaines boutiques en ligne. Alors c'est très curieux parce que à la base, Playstack, l'éditeur du jeu, avait échangé avec l'organisme PEGI en octobre 2023 Et après des échanges et une négociation avec eux, ils avaient obtenu un PEGI 3, qui est la norme la plus basse. Mais en fait, ces certifications-là, elles peuvent évoluer, elles peuvent être mises à jour selon qu'on fait des découvertes vis-à-vis du jeu, selon qu'on est peut-être aussi alerté par des tierces personnes sur le contenu d'un jeu. Et voilà donc que PlayStack se retrouve à devoir aller négocier avec la norme PEGI. L'éditeur a donc sorti un communiqué pour expliquer la situation et pour rappeler que ni eux, ni le développeur du jeu n'entendent cultiver la moindre zone de flou vis-à-vis de leur avis sur les jeux d'argent. Ils sont contre et ils y sont farouchement opposés. C'est comme ça que ça a été dit. Alors aux États-Unis, hein, cette différence entre le contenu du jeu et son imagerie, effectivement, son imagerie un peu de casino, ça lui a valu un 10+ à l'ESRB, et un 10+ ainsi qu'un badge thématique jeu d'argent. Thématique jeu d'argent, c'est pas exactement la même chose que ce jeu vous apprend à jouer de l'argent. Mais du côté du PEGI, c'est un peu plus flou, parce qu'un jeu comme FIFA, par exemple, qui va contenir le mode ultra prédateur qui s'appelle Ultimate Team, prédateur pour votre argent réel, je le rappelle, il ne peut pas, selon la norme PEGI, écoper d'un 18+, ni d'un pictogramme jeu d'argent, justement parce que son imagerie, elle n'évoque pas les jeux d'argent et les casinos. Balatro, en revanche, avec son tapis vert, son brelan d'as, il peut beaucoup plus être frappé d'indignité dans la précipitation via la norme PEGI. Et là, c'est désormais, comme je le disais, à PlayStack de monter au créneau et d'essayer de faire changer les choses. C'est déjà arrivé à d'autres jeux, hein, notamment chez Strange Scaffold, qui est un studio indépendant américain, si je dis pas de bêtises, qui avait fait un jeu effectivement à thématique poker, qui n'était pas du tout un jeu de poker ni un jeu de paris d'argent, et qui finalement avait été délisté d'un certain nombre de boutiques avant d'y revenir après avoir négocié son retour. Mais pendant ce temps-là, effectivement, il y a un manque à gagner, alors que le jeu était dans une belle courbe, hein, souvenez-vous, hein, il a déjà rapporté plus d'un million à son éditeur, c'est un vrai phénomène. Et c'est une courbe qu'on vient justement, une montée qu'on vient écréter comme ça au pire moment, ce qui doit faire énormément chier le développeur et qui doit énormément faire chier l'éditeur également. Chez nous, Balatro reste disponible sur Steam, il est disponible sur le PlayStation Store, il est disponible sur le Microsoft Store, mais en tout cas, l'eShop de la Switch a suspendu la commercialisation du jeu jusqu'à nouvel ordre. Donc il faut partir du principe, là, ce que je vous ai dit par rapport à la norme PEGI et par rapport au 18+ et par rapport à FIFA, on met ça de côté. Mais il faut se dire que, grosso modo, Balatro est victime d'une erreur de classification, très probablement liée à des alertes qui ont été levées contre lui, vis-à-vis de son imagerie. Et à partir de là, il y a quelqu'un au sein de l'organisme de ratification qui s'est précipité sur le cas Balatro. Rockstar, GTA 6, ça y est, j'ai prononcé les mots qu'il fallait. Normalement, les vues de ma vidéo viennent de quintupler. Je l'espère en tout cas. Si pour le commun des mortels, la dernière ligne droite du développement de GTA 6, ça va être synonyme de achat de consoles de nouvelle génération, de planification des congés en vue de la sortie du jeu, pour les employés de Rockstar, l'affaire est légèrement plus pesante. Alors, c'est Jason Schreier qui publie en fait cette indiscrétion chez Bloomberg, hein, là où il travaille. L'entreprise a décidé que la sécurité et la confidentialité du développement du jeu valaient un certain nombre de sacrifices, surtout du côté des employés, qui sont rappelés manu militari au bureau 5 jours sur 5 dès le mois d'avril prochain. Alors évidemment, si vous bossez 5 jours sur 5 à l'usine, difficile de voir le problème, je comprends. Mais dans l'industrie du jeu vidéo, les choses ont pris une toute autre tournure ces dernières années. Les entreprises du secteur, elles ont étendu leur périmètre d'embauche en utilisant la promesse et la possibilité de télétravail parfois jusqu'à 100% du temps comme une sorte de grande canne à pêche pour aller chercher des gens qui étaient en dehors de leur périmètre d'embauche jusqu'ici. Et c'est le cas de Rockstar en l'occurrence qui, sous couvert là de protéger le jeu. C'est bien le plus important. Pourquoi j'ai fait un truc d'épaule comme ça, hein, monsieur Pujadas? Bref, c'est catastrophique ce qui vient de se passer. Donc, protéger le jeu et le projet, c'est le plus important. Et donc, en agitant, bien sûr, le souvenir du vol de données. Hein. Ils ont été victimes d'un vol de données en 2022. Et en agitant cette ombre-là, ce souvenir-là, qui même émotionnellement pour les développeurs est encore vif, eh bien maintenant, le but va être de venir rogner généreusement sur les acquis sociaux de ses employés. Sachant que La productivité nécessaire à la finalisation du projet, elle est également citée comme un facteur par le mail interne que s'est procuré Jason Schreier, et la productivité sur les fins de développement chez Rockstar, on sait que ça les connaît. Donc voilà, bien sûr, lorsqu'on voit ce genre de nouvelles, faut pas oublier de rappeler que pour bon nombre de grosses entreprises, le rappel au bureau non consultatif auprès des employés, ça a servi à remettre un petit peu d'ordre, hein, remettre un brin de contrôle là-dedans. On pense bien sûr à la bonne vieille réunionite, qui sert principalement à redonner du sens au middle management dans ces grandes entreprises, mais on sait aussi que depuis 2020, il y a un certain nombre d'évolutions au sein des entreprises qui effraient les patrons d'entreprise. Le plein télétravail en est une, la semaine de 4 jours en est une, l'arrivée des syndicats dans le monde du jeu vidéo en est une autre. Ce sont autant de choses qui sont perçues par beaucoup de grands groupes comme les résultats d'une trop grande liberté et d'une trop grande sécurité offerte aux salariés. Là, par exemple, Rockstar, en rappelant tout le monde au bureau, ils vont faire d'une pierre plusieurs coups. Ils vont récupérer le contrôle maximum du temps de travail des employés. Ils vont rappeler à ces employés qui tient les rênes. Un petit coup sur la laisse, histoire de dire « c'est pas parce qu'on vous a laissé cavaler pendant 2 ans qu'il va falloir commencer à vous rêver en semaine de 4 jours ». Et pour les gens incapables de suivre ce retour au bureau, les gens qui ont été amenés à être embauchés en plein télétravail, et on l'imagine aussi pour rester dans un cadre qui leur permettrait de ne pas se faire complètement étrier par les médias en faisant quand même des sacrifices du côté de Rockstar. On imagine que par exemple, voilà, les gens qui sont en situation de handicap, les gens qui n'ont pas de possibilité là, vraiment physique de mobilité vont être gardés dans une zone sanctuarisée par rapport à cette politique. Mais ça peut être aussi, et ça l'a déjà été, et ça le ressera, est-ce que c'est le cas là pour Rockstar, ça peut être aussi une manière de pratiquer certains dégraissages fantômes. Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Qui d'autre ? Qui seront les prochains qui licencieront dans cette économie du jeu vidéo qui, parce qu'une crise a été fabriquée tout là-haut, tout le monde fait un peu boule de neige et réagit de la même manière pour satisfaire au capitalisme boursier. Et dans cette idée-là, c'est venu plusieurs fois. C'est venu plusieurs fois l'idée de quand est-ce que ce sera le cas pour Rockstar ? Souvent la réponse est quand le jeu sera sorti, évidemment. Mais ce genre de rappel au bureau peut être aussi une manière de faire des Shadow layoffs, par exemple. Je crois que c'est un terme que j'ai déjà lu sur les médias anglo-saxons. Mais nous, on pourrait appeler ça dégraissage fantôme, licenciement fantôme. En gros, expliquer à certaines personnes que ça va, on tombe d'accord, tu peux pas nous rejoindre, c'est fini, quoi. Là, on est vraiment complètement sur de la conjecture de ma part. Je veux pas qu'on vienne me dire où est-ce que t'as lu ça. C'est juste que c'est une pratique répandue dans l'industrie. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'Apple Arcade, mais c'est de ça dont on va parler juste là. Un petit point santé des développeurs mobiles, cette fois-ci, via un prisme qui nous a été offert par un article du site mobilegamer.biz. Ah, vous ne lisez peut-être pas mobilegamer.biz, et pourtant c'est l'une des références dans le domaine. Ils ont collecté un certain nombre de témoignages de développeurs partenaires exclusifs du programme d'abonnement Apple Arcade, et on y découvre un service qui n'a plus grand-chose du grand Eldorado. Des débuts aux surprises, vous allez me dire. C'est certes toujours très avantageux pour les consommateurs, mais sans que cette valeur ne soit a priori répercutée proprement sur les contrats qui sont offerts aujourd'hui aux créateurs de jeux vidéo. Apple Arcade ne rapporterait donc plus de quoi justifier les exclusivités temporaires que l'entreprise exige auprès des développeurs. En plus d'avoir pas mal revu sa ligne éditoriale sur pas mal de points, l'entreprise se serait par exemple pas mal détournée des jeux originaux pour leur préférer des adaptations de grosses licences avec une portée familiale assez forte. Jusqu'ici, c'est bien leur droit. Sauf que, les sources de Mobile Gamer, elles avancent que Apple aurait tout simplement changé d'opinion sur des jeux en cours de développement du jour au lendemain, et voire parfois ce serait carrément détourné de certains projets en pratiquant un management distant, distrait et peut-être aussi un peu silencieux. Donc ça, c'était pour les plus chanceux, manifestement, quand d'autres ont vraiment vu leur projet annulé, sans qu'un minimum d'explications soit parfois fourni aux développeurs, à supposer que le support partenaire d'Apple, réponde encore aux emails à ce moment-là. Parce que l'article fait vraiment état d'une politique qui, pendant un temps, au moment du revirement, a vraiment été de dire « ce jeu, effectivement, il est développé pour nous, etc. Mais il ne nous intéresse plus trop, donc on lui répondra la semaine prochaine, quoi, ou la semaine d'après. » Donc, effectivement, ce genre de travail en termes d'éditeur, parce que à ce moment-là, t'es sinon éditeur, t'es commanditaire du jeu, est quand même un peu dramatique pour un développeur qui ne sait plus du tout où il va avec son jeu. Et il y a justement un développeur en particulier qui estime que la gestion interne du service, elle dégage, et là je le cite, une odeur de mort. Avec donc des rémunérations qui seraient en constante réduction pour les développeurs, une aide vraiment minimum de la part d'Apple quant au marketing des jeux qui arrivent dans le service. Ça semble effectivement sentir, sinon la mort, au moins le sapin. Et ce, depuis le départ de Nicolas Sébastiani. Nicolas Sébastiani, qui était directeur éditorial de Apple Arcade, avant de partir en direction éditoriale du nouveau pôle mobile de PlayStation, et avant de se barrer chez The Sandbox, qui font métavers et NFT, conneries. Bref, et donc il y a plusieurs sources de Mobile Gamer qui affirment que seule, manifestement, la concurrence créée par l'arrivée de Netflix dans le jeu vidéo semble à même de sortir un minimum Apple de sa torpeur avec l'offre Apple Arcade, même si, en parallèle, l'entreprise a l'air de se montrer assez revancharde avec les studios qui auraient travaillé par le passé en exclusivité avec Netflix. Je crois que le terme là tout de suite, ce serait ambiant. C'était la semaine dernière et on n'en a pas parlé dans l'hebdo, on aurait pu, mais on avait beaucoup trop de sujets à traiter. Deck Nine Games licencié à son tour. Donc, dans cette farandole, il y avait PlayStation, il y avait Electronic Arts, il y avait aussi Deck Nine. Donc un studio américain qui avait pris le relais, pour rappel, de Dontnod sur Life is Strange, d'abord avec l'entre-épisode Before the Storm, et après Life is Strange 2 sur True Colors, qu'on pourrait appeler Life is Strange 3, j'imagine. Et donc, ils viennent donc d'annoncer une réduction de 20% de la force de travail de l'entreprise. Si vous suivez l'actualité du jeu vidéo avec intérêt, ça vous rappellera quelque chose, je pense. Le studio avait déjà traversé une passe de licenciement l'an dernier. Au mois de mai, il y avait une trentaine de personnes qui avaient été renvoyées. Leur poste avait été supprimé, et on se souvient d'ailleurs que certains, souvenez-vous, je suis sûr que ça vous a marqué ça, certains chefs d'équipe avaient choisi de se saborder eux-mêmes et de quitter des postes mieux payés pour empêcher que le couperet ne retombe sur leurs subalternes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. En tout cas, il y avait plusieurs sources, plusieurs personnes licenciées qui avaient fait état d'une espèce de move un peu héroïque au sein du studio. On était là alors à quelques mois de la sortie du prochain jeu du studio, un jeu narratif adapté de la licence The Expanse pour le compte de New Telltale, appelons-les comme ça, et c'est un titre qui n'a manifestement mis à l'abri ni le studio, qui licencie aujourd'hui 20% de ses salariés, ni l'éditeur, puisque pour rappel, New Telltale aurait licencié une bonne partie de ses troupes quelques mois après la sortie du jeu en fin d'année dernière. Voilà donc Deck Nine en difficulté aussi, au point donc de licencier grosso modo une personne sur cinq, et ce malgré un fait rare, décidément culture d'entreprise assez intéressante chez les managers et middle managers au sein du studio. Selon un réalisateur encore en place, qui s'appelle Stéphane Frost, les patrons de l'entreprise auraient d'abord procédé à des réductions de leur salaire avant de licencier. Malheureusement, ces réductions, elles n'auraient pas réussi à endiguer tout le problème, ils n'auraient réussi à endiguer qu'une partie du problème, à limiter le nombre de licenciements, mais pas à empêcher qu'ils arrivent. Et dans les licenciements, ça s'arrête pas là. Les développeurs de Deliver Us the Moon et Deliver Us Mars, que vous connaissez peut-être comme une série de jeux narratifs, donc le studio Keoken licencie également un certain nombre de personnes. C'est un petit studio, mais qui licencie du coup une poignée de personnes, mais à la hauteur du studio, c'est beaucoup. On a également un studio mobile qui s'appelle Wildlife Studio, qui se sépare de 133 personnes, l'air de rien, et c'est sa troisième passe de licenciement au cours des trois dernières années, ce qui est une histoire, là aussi, malheureusement très répandue. Et on a Cloud Imperium Games, donc les développeurs de Star Citizen, qui auraient, et là je vous laisse aller lire sur le sujet, parce que c'est encore, comme souvent, avec le bon Chris Roberts, un sacré panier de crabes, et il faut démêler tout ça proprement, et c'est un bordel sans nom, mais qui auraient, sous couvert de déménagement de studio, un peu dégraissé au passage aussi, voire un peu beaucoup. On se rend dans le nord de la France maintenant. Les procédures Bayon, c'est l'arme de ceux qui ont de l'argent à cramer pour faire taire leurs détracteurs. Et parfois, vraiment vraiment parfois, ça peut se retourner tel un boomerang contre l'entité ou la personne qui use ou abuse de ces procédures Bayon. Alors on a récemment appris, entre autres par le journal La Voix du Nord, que Ankama, l'entreprise derrière Dofus, elle avait été officiellement condamnée par le tribunal judiciaire de Lille. Le journaliste Bruno Renoul, il explique comment Ankama, mise en cause devant les prud'hommes par un ancien employé, c'est pas la première fois, probablement pas la dernière, hein, c'est une très très grosse entreprise qui, voilà, qui existe depuis longtemps et qui a des problèmes de management, eh bien, comment cette entreprise, elle aurait tenté de faire pression sur d'autres voies pour les empêcher de témoigner en faveur de cet employé au prud'homme. L'entreprise donc dirigée par Anthony Roux, que vous connaissez très probablement sous le nom de Tot, soit parce que vous êtes fan de Dofus, soit parce que vous avez fini par muter son compte Twitter. Et en gros, il avait fait mettre en demeure deux salariés pour que ces personnes-là, elles retirent leur témoignage. Et le tribunal judiciaire de Lille a qualifié ces procédures d'infondées. Je cite le verdict. Cette action s'analyse en une volonté délibérée de porter atteinte à l'exercice des droits de la défense. Et il est établi qu'elle a été menée avec une intention de nuire à toute personne entendant opposer une critique ou ouvrir un débat sur les pratiques managériales de cette société. Donc là, difficile effectivement pour Ankama, dans cette affaire, de faire reconnaître des dénigrements et des faux témoignages, ce qui était le motif de leur plainte, quand, comme justement l'explicite le verdict du tribunal, ces témoignages semblent raccord avec les conditions de travail telles que relevées au sein de l'entreprise. Et là, le tribunal parle, je crois, de ce qu'il a relevé et pas de la litanie d'enquêtes, d'articles et de témoignages qui épinglent Ankama, hein, son management et ses conditions de travail inférieures au standard, dira-t-on pour être poli, depuis près de 10 ans, grand minimum. De son côté, bien sûr, le patron de Ankama, Anthony Roux, dénonce une cabale, on aurait pu l'écrire tout seul, et une instrumentalisation des faits qui aurait été isolé par le STJV, et en même temps, voilà, avec lui, on n'attendait pas vraiment autre chose. C'était, il y a 10 ans, la rengaine des jaloux, les jaloux d'Ankama qui lui voulaient du mal, et maintenant c'est la rengaine des trop politisés. C'est une évolution assez classique. En tout cas, voilà, l'ex-salarié qui était visé par cette procédure Bayon devra être dédommagé d'une somme de 2000 euros par Ankama, si... Et seulement si, bien sûr, l'appel que n'a pas manqué de faire Ankama était refusé par le tribunal. Et le témoignage, donc son témoignage de cet ex-employé ou employé, je ne sais plus, dans un autre dossier au prud'homme, ne sera donc pas retiré. Coucou les fans d'Halo, ça va ? C'est une fin de carrière bien frelatée que nous propose le compositeur Marty O'Donnell, autrefois, voilà, hein, musicien et compositeur de légende, des thèmes les plus emblématiques de la série Halo, et aujourd'hui candidat républicain à la Chambre des représentants du 3e district du Nevada, pour le 3e district du Nevada. O'Donnell veut aller défendre une certaine idée de l'Amérique au Congrès, une Amérique conservatrice, recentrée sur les valeurs de la famille traditionnelle bien sûr, les enfants élevés comme au temps d'avant, une Amérique aux frontières bien verrouillées et une Amérique qui vote Trump, comme il le fera lui-même à l'automne. Ce sont là ces mots, hein, en gros, il le dit, j'ai déjà voté 2 fois Trump et je le referai. Je vous passe ces vues sur le Covid, sur Gaza ou sur les questions de genre. Si vous suivez un peu l'animal sur les réseaux sociaux, vous avez difficilement pu passer à côté de ces nombreuses prises de parole qui en font une énième parfaite vitrine de l'alt-right auprès des communautés jeux vidéo. Et justement, si j'en parle ici, c'est pas juste pour dire « regardez un mec de droite, on a autre chose à foutre », c'est surtout pour retracer un peu l'approche très particulière qu'a eu Marty O'Donnell des années post-Halo et comment ce garçon pense pouvoir s'imposer en politique grâce au pouvoir de thèmes musicaux qu'il a composé il y a 25 ans. Donc il y a d'abord eu Halo, bien sûr, puis Destiny, et puis un divorce ultra houleux avec Activision et avec Bungie, au cours duquel, bah justement, son comparse Michael Salvatori est resté le compositeur référent de Bungie, pendant que lui devenait une sorte de spectre, qui essayait en fait de capturer l'éclair de Destiny et de Halo par tous les moyens. Il s'est beaucoup servi de la licence Destiny à cet effet-là, et également des gens qui voulaient, notamment, il y avait des fans pendant un temps, on était dans les années, 2014, 2015, 2016, il y avait des fans qui voulaient absolument reconstituer l'intégralité de la bande son qu'il avait, de sa bande son qui n'avait pas été entièrement gardée pour le jeu, pour Destiny. Il a cultivé cette communauté-là pour pouvoir ensuite commercialiser auprès d'eux des morceaux de musique, des maquettes musicales issues selon lui de travaux préparatoires sur Destiny. des travaux desquels il avait cédé les droits par contrat lors de sa collaboration avec Bungie. Ça se fait beaucoup dans l'industrie du jeu vidéo. Et puis, c'est une cour de justice qui finalement l'a reconnu coupable de commercialisation illégale de matériaux sans en posséder les droits d'exploitation. Il a même fallu que des gens viennent chez lui, soient envoyés à son domicile, pour détruire les copies de ce travail, un travail qu'il avait composé, mais qu'il ne pouvait pas s'empêcher de constamment réuploader sur Bandcamp, sur YouTube, pour essayer d'en tirer un billet, et ce, bien qu'il n'ait pas les droits dessus. Pendant ce temps-là, O'Donnell confondait un studio qui s'appelle Highwire Games. Ils vont faire Golem, et puis un autre jeu ensuite. Et puis, de l'autre, il fondera de son côté ce qu'on appelle la Marty Army. Gardez ça, ça va nous servir pour plus tard. Alors, Highwire, c'est un studio qui s'est fait la main sur Golem, pour lequel Marty O'Donnell a composé la BO. Et puis ensuite, Highwire a décidé de ressusciter un projet maudit de Konami. Même Konami avait compris que c'était une mauvaise idée. Six Days in Fallujah, hein, qui est devenu une sorte de panégyrique des soldats américains qui sont, vous voyez, ceux qui sont partis faire du porte-à-porte avec des fusils d'assaut à Fallujah en 2004. Bah voilà, ceux-là. C'est là qu'entre en jeu la Marty's Army, justement, qui est supposée à la fois réunir les fans de Halo persuadés que O'Donnell a été une victime des grosses entreprises, et puis de l'autre, ceux qui ont été excités par cette image du vétéran du jeu vidéo qui dérange avec son jeu vidéo politiquement incorrect, hein, faut mettre les très très gros guillemets, mais bien sûr, voilà. Donc il y avait dans la Marty Army une espèce de creuset quand même, voilà, de gens dont on voit un petit peu l'orientation générale. Et cette Army-là, O'Donnell, il n'a pas grand-chose de très novateur à leur vendre aujourd'hui. Il dit défendre la classe travailleuse, il fustige les grandes entreprises, les médias, les syndicats, Washington qui est devenu fou, comme il dit, les immigrés à qui on a offert beaucoup trop de choses. Enfin, le mec, en fait, en termes de républicain aux États-Unis, n'a pas vraiment de grande originalité à proposer. Il n'a pas vraiment de verve, il n'a pas vraiment d'expérience en politique, il n'en a aucune. Il dit même, je n'ai jamais voulu faire de la politique, mais j'y suis amené, je dois y aller, voilà, enfin, c'est plus possible de ne pas entrer en politique. Ok, d'accord. Tout ce qu'il a, c'est un joli site de campagne avec des visuels spatiaux qui rappellent Destiny et sa page de donation qui va fonctionner sur des montants fixes qui sont des références à Halo. Et là, on entre vraiment au territoire du cringe le plus total. On peut donner $117 comme le nom complet de Master Chief, John 117. On peut donner $343. On embrasse 343 Industries et Microsoft qui doivent être absolument ravis. On peut donner $7 aussi. Hein. 7, c'est pas un chiffre symbolique pour Halo, mais 7, c'est le chiffre considéré un peu comme une sorte de fétiche de Bungie par la communauté Bungie. En clair, Marty O'Donnell continue son business de victime et manifestement sa prochaine étape, la prochaine étape de son plan, c'est de perdre aux élections de la Chambre des représentants fin 2024, mais d'avoir ensuite un gros Discord plein de gentils alt-right à qui venir expliquer que le politiquement correct, les médias ont tué sa carrière en politique dans l'œuf, avant d'essayer de leur vendre sa prochaine soupe qui ne manquera pas d'arriver. Voilà, pour finir de résumer ce qui se passe autour de Marty O'Donnell aujourd'hui, sortir avec le sourire de tout ça, en vous rappelant que Marty O'Donnell est un ami de très longue date de Tommy Tallarico. C'est le moment de voir ou de revoir Roblox ouf.mp3. Quelques brèves, très rapidement. C'est vraiment juste pour vous donner envie peut-être d'aller vous intéresser à des articles sur le sujet, parce que bon, bah voilà, c'est soit trop niche, soit effectivement ça mérite d'être lu et que chaque mot soit pris pour ce qu'ils sont exactement. D'un côté, du changement dans l'équipe dirigeante de Dontnod. Ça a été annoncé hier, a priori voilà, il y a un petit mercato qui se fait tout en haut. Alors est-ce que ça a un lien quelconque avec le fait que l'entreprise ait récemment été épinglée par des représentants du STJV? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas ça semble avoir un lien avec le fait que la présence de l'entreprise en bourse actuellement, hein, pour rappel c'est une entreprise qui est entrée en bourse il y a quelques années seulement, semble ne pas être tout à fait au beau fixe. Il y a quelque chose manifestement à changer. En tout cas hier sortait un petit peu coup sur coup, j'ai l'impression, à la fois l'annonce du fait que Dontnod, la valorisation en bourse, c'est pas la dinguerie, et puis de l'autre, de l'annonce du changement du côté de l'équipe dirigeante. Je dis bien l'équipe dirigeante, parce qu'il me semble que Oscar Guibert, lui, est toujours tout en haut de cette pyramide. Et puis, dans un tout autre registre, quoique on reste dans les entreprises du jeu vidéo, je vous conseille de lire un article de Eurogamer à propos de Firesprite Game. Firesprite, on les a vus dans l'actualité très récemment, puisqu'ils font partie des studios PlayStation à avoir subi des licenciements récemment, hein, durant la très très grosse passe de licenciements annoncée par PlayStation la semaine dernière, 900 personnes. Et donc FireSprite, ce sont les développeurs de Horizon Call of the Mountain, le spin-off d'Horizon pour PSVR 2. Ils ont souffert des licenciements comme Guerrilla, comme Naughty Dog, comme Insomniac. Ils n'ont pas souffert une fermeture, au contraire de London Studio. Mais justement, eh bien, souvent dans ces cas-là, on se retrouve avec des médias qui vont essayer de percevoir un petit peu le ressenti des gens qui sortent de l'entreprise. Et parfois, eh bien, ils tombent sur autre chose. Là, en l'occurrence, on imagine que Eurogamer avait envie de parler avec des anciens de FireSprite sur ce qui s'était passé en termes de licenciement. Et ils sont plutôt tombés sur, manifestement, un sujet sur la culture d'entreprise, qui était celle de FireSprite, studio britannique, si je ne dis pas de bêtises, qui était manifestement frappé par un certain nombre de soucis de management, et qui l'est toujours, puisqu'il n'a pas fermé. Donc les ex-employés parlent d'une culture de la peur, tout de même, d'une série de décisions toxiques qui auraient été notamment ordonnées par PlayStation lors du rachat du studio, qui a eu lieu il y a quelques années également, et donc notamment la nomination de nouveaux managers issus d'un studio Sony qui serait venu foutre un sacré sbeul là-dedans, et une ambiance pas tout à fait jojo. Vous voyez que j'utilise des espèces de périphrases parce que j'ai pas envie de partir sur des citations juste de mémoire. Lisez l'article sur Eurogamer. On y parle effectivement d'un climat de travail manifestement très pesant et donc d'un manquement, de plusieurs manquements aux standards de management que devraient mériter des studios, et à plus forte raison des studios d'une très très grosse maison comme PlayStation Studio qui semblait en pleine santé encore il y a une semaine et demie. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais peut-être vous parler un petit peu du planning de cette semaine. Le voici, on est donc dans la Mardinale JV, c'est le premier stream de la semaine. Vous avez rendez-vous cet après-midi avec le Perfide Albion, bien sûr, pour continuer l'aventure Metal Gear Saga à 14h. Demain, vous avez rendez-vous avec moi, demain à 11h, avec le petit Kawa pour essayer Promenade. Promenade, un jeu français de plateforme qui me rend très curieux. Hâte d'essayer ça et hâte de vous en parler. Et puis l'après-midi, mercredi après-midi, rendez-vous avec Moguri pour Mogurit Yourself. Il va y avoir de la bidouille, il va y avoir peut-être de la soudure, il va y avoir des prises de risques incroyables chez Origami et il va pas y avoir, on l'espère, un incendie. Jeudi à 11h, vous avez rendez-vous pour un stream Vavavoom avec ma pomme, mais également avec celle de Sylvain, de Hoopy. Ensemble, nous partirons dans les expéditions de Mudrunner Game. Mudrunner Game d'ailleurs, Mudrunner qui est un jeu de chez Saber Interactive, on en parlait au début de cette émission, vous voyez comme quoi on retombe sur nos pattes. Et puis vendredi 13h, Origami l'hebdo bien sûr. Ça c'est pour le planning des streams, mais vous doutez bien que derrière, en coulisses, ça charbonne, pour préparer les différentes mensuelles qui pointeront le bout de leur nez durant le mois de mars. Ça veut dire Super Vieux Jeu, bien sûr, ça veut dire Internet Explorer, bien sûr, et ça veut dire Wishlist, bien sûr. Donc ça commence à s'enchaîner, ça commence à être pas mal. Désolé, il n'y a pas eu de menu sur les réseaux sociaux, de vidéo verticale, le menu sur les réseaux sociaux cette semaine, parce que j'ai pas eu le temps avec Spidon. Voilà, je préfère être très honnête avec vous, parfois c'est juste ça. Parfois on a juste envie de rester en slop devant Spidon. Allez, prenez grand soin de vous, comme je le disais, et à très vite.
Oh ouais,
c'est bien ça. Mais est-ce vraiment... Ah non, on va laisser ça. Quelle angoisse. Bref, j'ai tout dit. Au revoir. Et surtout, achetez sur patreon.com/origamimedia.